Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, une émission où on essaye de vous proposer trois trucs cool en 20 minutes. On vous propose de la série télé, du cinéma, des films, des BD, de la musique, des livres, tout plein de choses super cool. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et je suis rejoint... Alors, il va falloir que je fasse les choses sérieusement, que je sois carré pour ces quatre prochains épisodes, pour cette nouvelle session de Positron. Puisque je reçois, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir deux animateurs du podcast Podcast Science, et ce sont des gens très sérieux. Comment allez-vous, messieurs ? Alors, j'ai Alan d'un côté, du côté plutôt des montres précises, et de l'autre côté, du côté, allez, qu'est-ce qu'on va dire ? Des grèves, j'ai Nico. Comment ça va, les gars ?
Ça va.
Je sais pas lequel de nous deux est sérieux, mais je suis pas
sérieux. C'est la science qui est sérieuse, monsieur.
Mais la science, on peut se marrer avec la science aussi.
Ouais, c'est ce qu'on va peut-être essayer de montrer, même avec des...
Exactement. Bah, je suis content de vous recevoir parce que j'avoue que ça fait quelques temps que j'ai pas écouté Podcast Science, mais c'est l'un des podcasts qui m'avait le plus intéressé il y a quelques années. Et vous abordez, on pourra en parler en fin d'émission, mais vous abordez la science de manière hyper passionnante et effectivement tout à fait distrayante. Donc c'est une excellente émission que j'invite les auditeurs à découvrir. Et s'ils ne sont pas encore convaincus par le concept, ils pourront être convaincus par votre éloquence dans cette émission et dans les trois suivantes, puisque vous me rejoignez pour cette nouvelle session de quatre épisodes de Positron. Vous êtes quelques mots à dire avant qu'on se lance ? Je vous laisse parler un peu.
Vas-y.
Non, mais j'allais te céder la parole quand il s'agit d'être éloquent.
Ah, ils sont tellement polis.
Non, mais du coup, on en dira peut-être deux mots à la fin du podcast, de Podcast Science. Mais ouais, on va essayer de faire de la science sans prise de tête, où on s'amuse. Donc voilà. Et puis, bon, on a tous les deux ramené des petites choses aussi qui permettent à des gens qui ne croient même pas forcément qu'ils aiment la science ou qui ne sont pas faits pour ça, qui pourront même s'amuser ou aimer ça. Donc ça devrait être sympathique.
Magnifique. Je vois le programme, effectivement. Il y a pas mal de science. Il n'y a pas que de la science, mais il y en a un petit peu, mais toujours de manière intéressante. Donc, merci à vous deux d'être là. J'espère que les choses se passeront bien pour vous. Entre parenthèses, je précise, on raconte toujours un petit peu sa vie dans les podcasts. Et moi, je fais rentrer les auditeurs dans ma vie. Je vous remercie aussi de votre patience parce qu'on avait rendez-vous à 10h du matin pour faire cet enregistrement. Et moi, comme un abruti, je n'avais pas noté que c'était 10h du matin. Je pensais que c'était à 2h de l'après-midi. Et donc, je suis allé prendre ma douche tranquillement, machin. Je n'avais même pas mon Apple Watch. Et donc, les mails que vous m'avez envoyés sont restés... Enfin, je ne les ai pas remarqués et vous avez attendu très gentiment et donc je m'excuse publiquement, voilà, je suis désolé.
Ça a laissé tout loisir à Alan de critiquer la ponctualité française, donc c'est parfait.
Et l'Apple Watch,
les deux, bah, c'était juste le jour où je ne l'avais pas sous la douche, c'est malheureux quand même. Bon, allez, on se lance dans ce positron et je vais commencer tout de suite donc avec une série plutôt sympa, plutôt détendue, pas un truc incroyable et extraordinaire, mais un truc quand même mignon qui s'appelle Mr. Selfridge. Est-ce que vous avez entendu parler de cette série Mr. Selfridge ?
Ça me dit rien du tout.
Non plus. Bah,
ça m'étonne pas tellement. En fait, c'est une série qui est pas très connue et... Objectivement, elle n'est pas invraisemblable, mais c'est une série qui, je pense, pourra plaire à pas mal de monde, et je la conseillerais vraiment à tout le monde. Elle est gentille, elle est sympa, et c'est en fait une série qui reprend, avec un petit peu de liberté, l'histoire d'un monsieur Selfridge qui aurait ouvert, au début du siècle dernier, le grand magasin, le Selfridge, à Londres. Et en fait, donc, on a une série qui se passe avec cet Américain qui est venu à Londres pour ouvrir un grand magasin, et un grand magasin un petit peu moderne, avec tout ce que ça implique d'intrigues, de curiosités, de trucs intéressants. sur le grand magasin, bien sûr, et sur la société londonienne de l'époque, évidemment. Alors, on a tous les poncifs du truc, on a les personnages qu'on pourrait attendre, lui, sa femme, sa famille, avec plein d'enfants, et ils sont évidemment très bourgeois. On a des employés du magasin qui vivent un petit peu plus dans la modestie de l'époque, qui était particulièrement modeste. On a des gens de la haute société, des gens qui sont dans la noblesse. On a les personnages de les abuseurs publics. On a donc, c'est un tableau vraiment de l'époque qui semble, du peu que j'en sais, relativement bien reproduit. Et c'est l'une d'ailleurs des valeurs de cette série, qui est que au niveau film d'époque ou série d'époque, c'est extrêmement bien fait. Tous les décors sont sublimes, le Londres de l'époque est hyper soigné. Et au niveau des vêtements et des coiffures et tout ça, je pense que ça plaira particulièrement aux gens qui sont friands des aspects historiques des séries et des films. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment un intérêt clair pour ces gens-là. Mais d'une manière générale, c'est une série qui n'est pas outrageusement dramatique ou horriblement... C'est une série qui est facile à regarder. C'est mignon, c'est gentil, c'est limite un petit peu Disney. Parfois, il y a des contrariétés, mais au final, je pense que les choses se terminent. Bon, c'est pas que tout va tout le temps bien. Il y a quand même des petits drames, mais c'est facile à regarder. C'est une série, il y a 3 saisons, je crois. Moi, j'ai vu la première saison. C'est 10 épisodes. Ça se laisse encore une fois regarder et c'est vraiment sympa et facile à regarder. Donc, je la recommande vraiment à tout le monde. Et ça s'appelle Mr. Selfridge. Voilà pour moi. Je voulais aussi parler de la série Daredevil parce que je l'ai trouvée extraordinaire sur Netflix, mais je crois que tout le monde en a tellement parlé que personne n'a pu passer à côté. Et comme on essaye quand même dans l'émission de parler, de vous faire découvrir quand même un petit peu des choses, je ne suis pas certain que Daredevil, ça, y aurait grand monde qui l'aurait découvert dans Positron. Mais vous avez vu, vous, Daredevil ?
Alors quoi ?
Daredevil !
Ah, Daredevil !
Oui, c'est ça.
Non, je ne l'ai pas vu encore.
Ah, malheureux.
Moi, j'ai commencé à regarder, etc., mais je ne l'ai pas vu en entier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout le même traitement de ce super-héros, pour ne pas citer son nom avec un accent français, que dans des films qu'on a pu voir à une certaine époque.
Ça, c'est sûr, oui, effectivement. Donc, bon, la série Daredevil, si vous ne l'avez pas regardée, je vous encourage vraiment à la regarder. Ça vaut de loin l'abonnement à Netflix pour un mois. Au pire, vous vous arrêtez après. Mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est une très très bonne série. Mais bon, comme tout le monde en a parlé, comme je disais, je me suis rabattu sur Mr. Selfridge, qui est une série vraiment sympa aussi et que vous découvrirez peut-être comme ça.
Alors, en tout cas, tu m'as donné envie. Moi, j'adore ces séries britanniques. Ils sont vraiment bons pour les séries historiques avec reconstitution de l'atmosphère de l'époque et tout ça. J'en avais jamais entendu parler, mais je vais aller voir. On le trouve sur Netflix ?
Non, elle passe sur OCS et sur d'autres chaînes en France. Et puis, les DVD sont disponibles partout, quoi.
Okay.
Donc, voilà. Et d'ailleurs, je voulais mentionner aussi... comment elle s'appelle, cette autre série du début du siècle qui a beaucoup, beaucoup... Downton Abbey. Je pense que ça plaira. C'est un petit peu genre Downton Abbey dans l'ambiance, mais c'est encore un petit peu moins con et dramatique. Mais c'est pas... Bon, parce que Downton Abbey, au bout d'un moment, ça devenait un petit peu trop, mais... Donc voilà, Mr. Selfridge, j'espère que vous l'apprécierez, et au moins, j'ai donné envie à l'un d'entre vous. Mission à moitié accomplie.
Non, ça va, j'ai envie aussi.
D'accord, ok, très bien, ouf, je suis rassuré. Écoutez, du coup, on va enchaîner, et c'est maintenant à Nico de nous parler de son positron.
Ouais, alors bon, je vais avoir du mal avec l'introduction que tu nous as fait à cacher que j'ai pas mal étudié les sciences, et pourtant en fait c'est seulement en première année de thèse, c'est-à-dire il y a une petite dizaine d'années, qu'au pays de la découverte, que j'ai découvert qu'il existait une toute autre façon de raconter les sciences que ce qu'on avait à l'école justement, c'est-à-dire une science sans gros mots, ces mots compliqués, incompréhensibles dont raffolent certains scientifiques, qui donnent une part belle à l'histoire, et en particulier aux échecs. À l'école on parle souvent très peu des échecs qu'il y a eu dans les théories scientifiques, qui souvent sont tout aussi croustillants que les réussites qui donnent les théories actuelles, et surtout en la racontant, c'est-à-dire en racontant comme une belle histoire, voire comme un roman, au lieu de présenter une suite de concepts. Et en fait, cette découverte, je l'ai fait avec un auteur, Simon Singh. Je l'ai bien prononcé, Alan, c'est bon ?
Non, c'est Simon Singh. Mais c'est
Simon
pas
Singh.
C'est bien.
Donc c'est sur lui que je vais porter mon premier conseil. Donc plus qu'un livre, c'est carrément un auteur. C'est un auteur anglais de Popular Science, qui est un terme, j'utilise le terme anglais parce que c'est assez dur de le traduire en français. On a vulgarisation, mais qui n'est pas très heureux comme terme. On a diffusion, qui n'est pas top non plus. Donc c'est de la science populaire, de la science pour tout le monde. Il a écrit un premier roman, et alors je vais presque insister sur le terme roman, parce que je l'ai offert à plein de gens en leur disant qu'ils ne sont pas des scientifiques pour qu'ils le lisent comme un roman. Ça se lit vraiment comme une histoire. Le premier roman qui m'a permis de découvrir cet auteur s'appelle Le Dernier Théorème de Fermat, enfin c'est le titre de la version française, et comme son nom l'indique, ça parle de la démonstration du dernier théorème de Fermat. Mais si on se contente de dire cela, d'abord on a l'impression que ça reste un livre de cours, et on perd un peu toute la substantifique moelle de la chose. Du coup, pour en dire deux mots de ce bouquin-là, Pierre de Fermat, c'était un juriste à l'époque, et en son temps, pour passer son temps libre, il s'occupait en démontrant des théorèmes mathématiques. Chacun a ses passe-temps, hein. Et quand il finissait une démonstration, au lieu de la publier, comme faisaient les scientifiques de l'époque, en général, il envoyait l'énoncé aux mathématiciens de l'époque en leur disant, en gros, j'ai réussi à montrer ça, et vous ? Et sans leur donner, bien sûr, la méthode. Alors, je sais pas comment on appelait ça à l'époque. Aujourd'hui, on appellerait sans doute ça un petit con. Et en tout cas, ce qui est arrivé du coup, c'est que il a laissé avec lui plein d'énoncés de théorèmes non démontrés, et entre autres, dans un exemplaire d'un livre de mathématiques qu'il utilisait pour apprendre les mathématiques, on a trouvé l'énoncé du dernier théorème de Fermat, que je ne vous ferai pas ici, c'est pas très utile, mais qui donc était un énoncé d'un théorème qui s'est avéré juste après, donc à l'époque c'était qu'une conjecture, quelque chose qui n'avait pas été démontré, avec un petit commentaire maintenant célèbre, j'en ai découvert une démonstration véritablement merveilleuse que cette marge est trop étroite pour contenir. Donc voilà, il laisse un énoncé de théorème, et pour trouver une autre démonstration véritablement merveilleuse, ça a pris plus de 300 ans, et ça a participé à l'évolution et à la construction de 300 ans de mathématiques, et c'est ce que le livre permet de découvrir. Donc c'est assez passionnant, parce qu'on découvre plein d'échecs, en fait, parce que c'est des gens qui ont essayé de démontrer le théorème de Fermat, qui n'y sont pas arrivés, mais qui, accessoirement, ont créé des outils ou des théories mathématiques pour faire cela.
Et il dit quoi, le théorème de Fermat ?
Alors, le théorème de Fermat, il est assez simple à énoncer. Si vous vous rappelez du théorème de Pythagore, qui dit x au carré plus y au carré égale z au carré, c'est-à-dire quand on fait la somme des côtés au carré, ça fait le carré de l'hypoténuse. Le théorème de Fermat, il regarde la généralisation de ça, c'est-à-dire il dit x à la puissance n, donc si on fait x fois x fois x n fois, plus y à la puissance n égale z puissance n, donc une équation où on a la somme de deux nombres à la puissance n égale le troisième à la puissance n, il dit il n'y a pas de solution quand n est strictement plus grand que 2. Donc une sorte de généralisation du théorème de Pythagore pour la puissance 3, la puissance 4, il n'y a pas de solution. Bon, je vous passe les détails, à part les solutions débiles du genre 0 plus 1 égale 1, où là, ça marche. Mais donc, ce n'est pas un théorème qui est très utile, mais c'est un théorème qui a passionné les mathématiciens parce qu'il est... Il est simple à énoncer, il est simple à comprendre.
Un puzzle mathématique, quoi.
Ouais, c'est ça. Et on se dit, c'est pas possible que ce soit compliqué à démontrer. Et en fait, ce dont on est à peu près sûr, c'est que la démonstration qui a été faite dans les années 90, c'est certain que c'est pas la démonstration qu'a utilisé Fermat. Et Fermat avait sans doute une démonstration qui était fausse. Parce que dans les années 90, on a utilisé toutes les mathématiques les plus modernes. Donc Fermat avait pas ces outils-là pour le faire. Donc c'est un vrai roman, c'est une histoire, il y a des rebondissements, etc. Et si je voulais vous parler de Simon Singh, et pas uniquement de ce bouquin-là, c'est qu'en fait, si vous n'aimez pas les mathématiques, vous pouvez vous intéresser même à d'autres de ses bouquins. Aujourd'hui, il en a sorti 5, donc il y a le théorème de Fermat dont on vient de parler là. Il a sorti un bouquin qui s'appelle « Histoire des codes secrets » où on découvre l'histoire de la cryptographie et au passage, du coup, plein de méthodes pour chiffrer les messages. C'est assez sympathique pour ça. En particulier, à l'époque, il avait fait un concours de déchiffrement où il donnait une dizaine de messages à déchiffrer. Le premier qui déchiffrait ça gagnait un prix. Bon, le prix a été gagné depuis. Il y a aussi écrit le roman du Big Bang, ça c'est mon préféré, ça tâche de raconter l'évolution de la physique et de l'astrophysique qui a pu amener à la conceptualisation du Big Bang, donc cette sorte d'origine un peu des événements. Et en particulier, il détaille beaucoup d'idées de théories qui se sont révélées être des échecs, des gens qui ont essayé de modéliser un peu les planètes, etc. Et ça marchait pas ou ça marchait moins bien qu'une autre théorie, mais qui ont quand même existé. Bon, ce bouquin date un peu pour tout ce qui est sur la fin, sur les théories les plus actuelles du Big Bang, c'est un peu daté, mais pour tout ce qui est historique, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai adoré. Un autre qui va peut-être t'intéresser...
C'est lequel, le bouquin spécifiquement ?
Le roman du Big Bang.
D'accord.
Un autre qui va peut-être t'intéresser, Patrick, qui s'appelle Médecine douce, Info ou Intox. Parce que j'ai vu que tu avais été faire de l'acupuncture sur Twitter.
Je te rassure, ça n'a pas marché. Hein.
Et alors, c'est sans doute le livre le moins accessible parce que son objectif, c'était de voir ce que la science pouvait dire des médecines douces, donc homéopathie, acupuncture, etc. Douce entre guillemets. Hein. De toute façon, le terme médecine pour toutes ces choses-là est un peu compliqué à utiliser. Ce qui est intéressant surtout, c'est la rigueur
de
l'approche.
Je pensais que tu allais me parler de médecine par herbes aromatiques.
Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, il y a plein de... Enfin, il parle de beaucoup de choses. Le gros intérêt, en fait, c'est qu'ils ont vraiment mis... il a travaillé avec un autre auteur et ils ont vraiment mis toute une rigueur à aller dans les détails de qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur les résultats de ces méthodes-là ou ne pas dire, ou dire on ne sait pas. Mais donc, c'est extrêmement intéressant pour ça. Si par contre, le sujet vous intéresse, mais que vous voulez des livres moins techniques, il y a des livres plus simples. Mais celui-là a le grand intérêt d'avoir essayé d'avoir la plus grande rigueur possible. Et le dernier qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, qui n'est pas encore disponible en français, mais qui vaut le coup surtout pour le public de Positron, je pense, qui s'appelle « The Simpsons and Their Mathematical Secrets ». Comme son nom l'indique, c'est un livre qui parle des quelles sont les mathématiques cachées dans les Simpsons et Futurama.
Parce qu'il se trouve,
Il se trouve que dans les auteurs de Simpsons et dans Futurama, il y a plein de gens qui ont un gros niveau de mathématiques, du master au doctorat. Et pour vous donner une idée, vous pouvez découvrir par exemple qu'il existe un théorème Futurama qui est une publication qui explique comment résoudre un des problèmes posés par un des épisodes de Futurama.
D'accord.
donc bref, il y a de quoi contenter tout le monde, je pense, et de passer un bon moment en plus en apprenant des choses. Donc, que demander de plus, quoi.
Très bien. Donc, l'auteur en question s'appelle Simon Singh, S-I-N-G-H.
C'est ça. C'est des livres en anglais à la base. Ils sont tous traduits, sauf le dernier, en français.
Bon, donc celui qu'on recommande peut-être, c'est le roman du Big Bang, c'est ça ?
Voilà, et le dernier théorème de Fermat aussi, si vous voulez vous mettre dans la tête des mathématiciens, qui est
d'accord.
vraiment sympa.
Ok.
J'irai pas jusque-là pour l'avoir lu, on n'entre jamais dans la tête d'un mathématicien. Mais ça se lit vraiment très bien, même si on n'est pas matheux, même si on a peur des équations, c'est un régal à lire.
Bon, si vous deviez en conseiller qu'un seul, vous recommanderiez lequel du coup ?
Vas-y, Tup.
Ah, c'est dur, ils ont tous leur charme. Moi, j'ai vraiment aimé le roman du Big Bang parce que je
d'accord.
viens du monde des maths, donc je connaissais plus le monde des maths.
Bon, on va dire le roman du Big Bang, mais on comprend bien qu'ils ont tous leur charme. Très bien, écoute, merci Nicolas. Je t'appelle Nicolas,
ouais.
Bon, ça passe. Et puis, on va donc maintenant donner la parole à Alan, qui va nous parler lui aussi de choses intéressantes. Je te laisse faire découvrir aux auditeurs ce dont tu veux nous parler.
Ah, c'est un petit peu moins sérieux que ce dont vous avez parlé, mais c'est plutôt fun. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je me trouve nez à nez avec une carte, je peux y passer des heures. Je regarde dans tous les coins, j'essaie de trouver des liens entre les choses. Et puis là, je suis tombé sur une série de 2 livres qui s'appellent « L'Atlas des préjugés » du bulgare Yanko Tsvetkov. Et c'est 2 livres vraiment très marrants. En gros, sur chaque page, il y a une carte géographique sur laquelle le nom de chaque pays est remplacé par le préjugé qui les concerne, selon évidemment la perspective. Alors, par exemple, dans le premier volume, il y a une carte de l'Europe vue par les Français. À la place de la France, on trouve la France, normale. Mais le Maghreb, lui, ne forme plus qu'une vaste région un peu grise qui s'appelle « Avant, c'était français ». La Grande-Bretagne, c'est le pays qui assassine les vierges. L'Irlande, c'est le pays des catholiques. L'Allemagne, ce sont vos meilleurs amis. L'Italie, c'est un peuple bruyant et amical. Alors vous me direz que c'est un peu cliché, mais vous allez voir, je suis sûr que ça vous parle. Je vais tester un peu vos préjugés. Vous êtes français tous les deux, non ?
Bah oui.
Bon, alors à quel pays vous pensez si je dis plombier ?
La Pologne.
Bien sûr. Si je vous dis danseur de flamenco ?
L'Espagne.
Voilà, bouffeur de boulettes ?
Bouffeur de boulettes. La Suède ?
Ouais, bien sûr. Fumeur de shit.
Là, je dirais la France, mais...
Non, les Pays-Bas.
Bien sûr, les Pays-Bas.
Ah oui, d'accord. Ouais, oui, parce que c'est légal là-bas, moi, je pense
que... Non, c'est plutôt dealer de shit, en fait, les Pays-Bas.
Bon, allez, un petit bonus pour la fin, Sarko-Hollande.
Sarko-Hollande ? C'est Neuilly-sur-Seine, non ? Ou je sais pas ?
C'est la Hongrie.
Parce que son père était hongrois.
Voilà.
D'accord, oui, ok.
Et puis, quant à la Suisse et la Belgique, bien sûr, elles ont le même nom. Ça s'appelle Semi-France dans les deux.
D'accord. Et donc, il y a des cartes. C'est un truc avec plein de cartes sur la manière dont chaque pays voit le monde, c'est ça ?
Oui, c'est un peu ça, ouais. Donc là, c'était l'Europe vue par les Français, mais en tournant les pages, la perspective change. Ainsi, pour les Italiens, la Suède est le pays des prix Nobel. La France, c'est l'Empire Bruni. La Suisse, c'est les montres, le Royaume-Uni, c'est Wembley, et la Pologne, c'est l'État papal. J'aime D'accord. bien les préjugés suisses aussi. Vu de chez nous, la Suisse, ben, c'est le monde, normal. La
oui,
Grande-Bretagne
oui,
est divisée entre les alcooliques au nord et la City au sud. Les Suédois ben, sont comme nous, mais en plus ennuyeux.
D'accord.
L'Italie, c'est le tiers-monde, et la France, c'est l'Ouest sauvage, en français dans la version anglaise. Bref, c'est un peu débile, mais franchement, c'est extrêmement marrant, c'est pas du tout politiquement correct, et c'est le livre parfait quand on n'a rien d'autre à lire aux toilettes.
D'accord. Écoute, ça a l'air assez sympa. Je pense que c'est le genre de truc qui fait un excellent cadeau, en fait.
Absolument.
Oui, j'ai l'impression. Bon, très bien. Donc, ça s'appelle « L'Atlas des préjugés ». C'est disponible, bah, j'imagine, un petit peu partout, mais...
Ouais, c'est disponible un peu partout.
C'est un gros livre ou...
Non, c'est un de ces petits livres au format un peu bizarre. Il est carré, mais il n'est pas très épais. Il fait une soixantaine de pages.
D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci bien. Je trouve ça pas mal, effectivement. L'Atlas des préjugés. T'as un prix, juste pour qu'on... Par curiosité, je vais essayer de chercher sur... Amazon,
alors,
l'Atlas des
prix de manière, parce que je l'ai sous les yeux, là, j'ai la version anglaise, du coup, il n'y a pas le prix.
15 euros.
Voilà, 15 euros. Bon.
Ouais, sympa. D'accord, très bien. Donc, l'Atlas des préjugés, qui est disponible visiblement dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Alan. Merci donc à vous tous. Je rappelle à nos auditeurs ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y avait une série pour tous qui s'appelle Mr. Selfridge. Un livre en particulier qui s'appelle « Le roman du Big Bang », mais d'une manière générale, tous les livres de Simon Singh, qui fait des livres de science populaire, qui sont pour tous aussi. Et enfin, « L'Atlas des préjugés », qui est une série de livres qui est pour tous aussi. Avant qu'on se quitte, donc, j'aimerais bien sûr que vous me disiez quelques mots sur Podcast Science et ce que vous faites sur Internet en général.
Allez, honneur à toi, Alan.
Oh, c'est gentil.
Vieux dictateur.
je suis le dictateur déchu de Podcast Science et Nico Tup est le nouveau dictateur. C'est notre modèle de gouvernance. Si on veut que les choses se fassent, à un moment, il faut quand même...
Vous alterner.
C'est ça.
Démocratie dictatoriale.
C'est un peu ça. C'est-à-dire que chacun y va de ses bonnes idées, puis à un moment, il faut quand même que quelqu'un décide pour que les choses se fassent. C'est le rôle du dictateur bienveillant.
C'est une bonne méthode. Je pense que c'est pas mal, ça, effectivement.
Mm-hmm. Et Podcast Science, c'est une chouette aventure. Au départ, c'était né de mon constat de l'absence de ce que Nico vient d'appeler justement de la science populaire sur Internet. C'est-à-dire qu'en France et dans les pays francophones en général, il y a cette tradition de la vulgarisation avec tout ce que ça contient comme connotation un peu top-down, quoi. C'est-à-dire qu'on a les détenteurs d'un savoir qui vont faire l'effort de le partager avec la plèbe, qui vont rendre tout ça vulgaire. En tout cas, c'est comme ça que moi, je perçois la connotation dans le mot vulgarisé. Alors qu'il y a une tradition dans les pays anglophones, depuis longtemps, ça remonte déjà à l'époque de Darwin, d'essayer de rendre la science populaire, accessible à tous. Et si un auteur, si un scientifique américain ou anglais est aussi un auteur de best-seller, bah, il sera bien vu dans sa communauté, ce qui n'est pas exactement le cas en France. Enfin, bref. Donc, je voulais faire quelque chose qui réponde un peu à ça, c'est-à-dire qui s'adresse à des adultes, sans le côté gnangnan de la vulgarisation pour les enfants, mais qui s'adresse, qui répondent à leur curiosité. En fait, je me suis rendu compte avec les années, en rodant un peu le discours, qu'il y a un gros biais dans la vulgarisation à la francophone, c'est-à-dire qu'on a tendance à surestimer les connaissances des gens, du coup, on utilise un vocabulaire super spécialisé, et sous-estimer leur intelligence, on leur parle un peu comme à des gamins. Ce qu'on a essayé de faire avec Podcast Science, c'est précisément le contraire. Ne jamais surestimer les connaissances des gens, parce qu'après tout, ça demande pas mal de recherche, quoi. Quand on s'intéresse à un sujet particulier en science, et tout le monde n'a pas accès, tout le monde n'a pas le temps de lire 3 ou 4 bouquins sur un truc qui l'intéresse avant de pouvoir se faire une idée un peu plus précise. Donc on ne surestime jamais les connaissances, on essaie toujours d'utiliser un vocabulaire que tout le monde comprenne. C'est un exercice vachement difficile de faire passer des concepts complexes avec le vocabulaire du bac, en gros, hein, le vocabulaire d'avant spécialisation. Et puis, on ne sous-estime jamais leur intelligence, parce que tout le monde est capable de comprendre n'importe quoi. Je pense que c'est notre spécificité en tant qu'humain d'avoir cette intelligence formidable. Je pense vraiment qu'on peut tout comprendre. Il faut juste qu'on nous prenne par la main, qu'on nous raconte la bonne histoire. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans Podcast Science. Ça marche plutôt bien maintenant. Ça fait 4 ans et demi que le projet a démarré. On pourrait croire qu'on a abordé tous les sujets qu'il est possible d'aborder. Je pense que c'est juste la pointe de l'iceberg. On pourrait partir pour encore 50 ans à ce rythme-là. On aurait toujours de nouvelles choses à dire.
On pourrait même en faire une infinité, on n'aurait pas tout dit.
Enfin voilà, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que la science, c'est intéressant. Elle a une histoire à raconter. C'est pas forcément barbant. C'est pas raconté par des vieux schnocks en blouse blanche. C'est quelque chose de très vivant. C'est un processus, c'est une démarche, c'est des certitudes qui se remettent en question sans arrêt. C'est comme ça que ça avance. Et c'est absolument passionnant. Et on voulait partager cette passion. C'est ce qu'on fait semaine après semaine.
C'est magnifique, dis-moi. Tu m'as presque amené une petite larme à l'œil, là. Ça, oh. ça donne vraiment envie, en tout cas. Est-ce que vous pouvez, tu peux me dire où on peut retrouver cette merveilleuse émission ?
Mais bien sûr. Le plus simple, c'est de passer par notre site web. Donc, c'est www.podcastscience.fm. Podcast Science, tout collé en un mot, science au singulier. On nous retrouve aussi, bien sûr, sur SoundCloud, sur iTunes, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Ouais, je crois que c'est tout. Ah oui, le live. Notre émission en live, c'est le mardi soir à 20h30 à l'adresse live.podcastscience.fm. On a une chatroom dans laquelle ça parle allègrement, joyeusement de tout et n'importe quoi pendant que l'un d'entre nous essaye de présenter son sujet. Il y a toujours une très bonne ambiance, c'est très sympa.
Magnifique.
Et peut-être oui, une particularité que tu n'as pas abordée, ou en fait, on a de plus en plus de contributeurs extérieurs. On a plein de gens qui, si vous avez un sujet qui vous intéresse et tout, on commence à avoir un système de peer review, c'est-à-dire où des gens peuvent nous proposer des choses et on aide à corriger, à améliorer pour qu'ensuite on en fasse un épisode. Et on a de plus en plus de gens qui parfois viennent uniquement pour un épisode sur un domaine qu'eux, ils connaissent bien, et ça fait des épisodes souvent très intéressants.
J'aimerais préciser effectivement ce... Sur la chose, il y a un sérieux dans la manière dont vous abordez votre émission et les dossiers que vous faites, qui est assez inédit dans le monde du podcast. Et moi, étant podcasteur depuis longtemps, j'en ai écouté beaucoup. Et il y a une vraie... on sent que vous êtes non seulement des passionnés, mais j'imagine que vous êtes tous des professionnels, des scientifiques professionnels, ou à peu de choses près, n'est-ce pas?
Allez, casse le mythe, Alan.
Ouais, alors moi, j'ai même pas le bac.
C'est vrai?
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, du coup, si c'est pas indiscret?
Je travaille dans l'informatique. J'ai eu
d'accord.
Le temps quand j'étais petit, à une époque où les formations n'existaient même pas.
Ah, mais c'est incroyable, parce que moi, j'étais convaincu que vous étiez tous... Mais c'est le cas aussi pour les autres animateurs?
C'est très varié. À la création, en fait, Alan et Mathieu, qui ont créé le podcast, étaient tous les deux, tu me contrediras, Alan, si je dis des conneries, hein, mais étaient tous les deux avec une formation scientifique très légère. Je crois que Mathieu a fait un peu plus de science, mais il n'en a pas fait son métier, entre guillemets. Maintenant, ce n'est plus trop le cas. C'est-à-dire que dans l'équipe actuelle de Podcast Science, moi, j'ai une thèse en mathématiques, même si je ne suis plus dans la recherche. On a Johan qui, lui, est en train de travailler, qui est en post-doc en astrophysique. On a Irène qui est dans un labo de biologie. On a des gens qui sont beaucoup plus scientifiques qu'avant, mais après on en a d'autres qui ne le sont pas et qui ont fait des dossiers. On a Julie qui elle travaille dans le bâtiment, donc qui n'est pas particulièrement scientifique et qui parfois nous a fait un ou deux dossiers. Donc c'est pas une règle, mais il se trouve qu'aujourd'hui c'est en effet un peu plus connoté scientifique.
Ah bah quand même, je suis surpris et agréablement surpris comme quoi c'est vraiment possible pour n'importe qui de au moins d'avoir l'air professionnel en faisant un petit peu de travail.
Dans les contributions extérieures qu'on a eues, on a eu beaucoup de gens qui n'avaient pas du tout une grande spécialité dans leur domaine, dans le domaine scientifique, en fait. Ils s'étaient intéressés à un sujet.
D'accord.
Bon, effectivement, dis-moi. La seule passion ne suffit pas si on veut parler de science. Je pense qu'il faut aussi une rigueur. Une rigueur à toute épreuve, quoi. On doit vérifier les sources, il faut avoir un regard critique sur tout. Sinon, il y a trop de risques de raconter n'importe quoi. Donc c'est possible, mais ça demande énormément de boulot.
D'accord. Bon, écoutez, ça nous fait une sorte de quatrième recommandation, du coup.
Mission accomplie.
Podcast Science, très très bien.
Bon, juste en tout cas, un dernier petit truc que je voulais dire à propos du live.
Oui, vas-y.
Qui est d'aborder. Un truc extrêmement sympa, c'est qu'on a des dessinateurs qui viennent illustrer ce qu'on raconte en direct pendant le live et qui publient leurs dessins. Donc c'est une excellente raison d'assister au live, de voir apparaître tout à coup ces œuvres. On ne sait pas trop d'où elles sortent et c'est juste merveilleux, c'est super. Je pense notamment à Pouillot. excellent dessinateur, à Inti aussi qui participe de temps en temps. Et puis Nico nous fait aussi des dessins de temps à autre. Donc juste pour ça, il faut venir sur le live le mardi soir à 20h30, live.podcastscience.fm.
Magnifique. Bah dis-moi, si avec tout ça, les gens ne sont pas convaincus, je ne sais pas ce qu'il leur faut, quoi. Donc, très bien. C'est donc sur podcastscience.fm. L'adresse est facile à retenir. Si on veut vous retrouver sur Twitter, par exemple, c'est toujours le truc que je donne à tout le monde. Allez-y.
On s'appelle Podcast Science, la même chose, tout collé au singulier.
Très bien. OK. Moi, je pensais à vos Twitter personnels, mais... Si c'est pas le truc principal, si.
Pour le mien, bon courage. Alors c'est Alan von Lanten, comme ça se prononce.
C'est ça, avec un V comme von Lanten le laisse entendre.
C'est ça, exactement. C'est ça. Et un H après le T.
Voilà.
Et Nicotupe pour Nico, T-U-P-E.
Voilà.
Très bien, bah écoutez, merci à vous deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter. Je suis aussi disponible sur Facebook, toujours / NotePatrick, et sur Google+, Patrick Béja. Et vous pouvez surtout venir commenter et retrouver les notes de l'émission sur le site web frenchspin.fr. Et vous retrouverez aussi sur le site web des émissions qui, mine de rien, sont pas si éloignées de Podcast Science, en ce sens que j'essaye de faire de la vulgarisation populaire de l'actualité technologique et de la rendre compréhensible et accessible pour tous. J'aime bien ta définition, le fait d'utiliser, de ne pas surestimer les connaissances, mais de ne pas sous-estimer l'intelligence des auditeurs. C'est un petit peu ce qu'on fait dans le Rendez-vous Tech aussi. Donc, peut-être que ça vous intéressera. Il y a aussi le rendez-vous jeu pour tout ce qui est gaming, etc., etc. Tout ça est sur frenchspin.fr que vous retrouverez, et vous y retrouverez évidemment les notes de cette émission. Et on se retrouve, nous, dans 2 semaines pour un nouveau Positron, toujours avec 3 trucs cool et toujours en, à peu près 20 minutes. Merci à tous et à dans 2 semaines. Ciao.
À bientôt. Don't walk, stop, 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 don't walk, stop